voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Johanna Bedeau rencontre Daniel Zaguri. Ce soir, la banalité du mal.
Psychiatre des hôpitaux, spécialiste de psychopathologie et de psychiatrie légale, mais aussi expert auprès de la Cour d'appel de Paris. Vous êtes amené, Daniel Zaguri, à témoigner dans de multiples procès pour d'importantes affaires criminelles telles que Guy Georges, Patrice Allègre, Michel Fourniret et bien d'autres. Auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles consacrés aux parricides, aux crimes passionnels et aux tueurs en série, vous obligez la société à admettre que l'horreur absolue n'est pas étrangère à l'homme ordinaire. En allant au-delà des acquis psychiatriques, vous tentez de comprendre comment sont fabriqués de tels humains. Bonsoir Daniel Zaguri.
Bonsoir.
La célèbre thèse d'Anna Arendt, développée dans son ouvrage Eichmann, Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, va être au centre de notre conversation. Dans cette dernière partie, c'est une préoccupation qui vous habite, au point d'y avoir consacré un livre.
Oui, je me suis rendu compte d'ailleurs après coup que ça rejoignait un peu ma thèse, c'est-à-dire d'essayer de se représenter en tant que psychiatre ce que peut être le normal, voilà, dans toutes ces gammes. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette question extrêmement simple, qui d'ailleurs va tout à fait à contre-courant des représentations collectives, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les crimes les plus épouvantables sont commis le plus souvent par des hommes ordinaires, qui ne sont ni psychopathes, ni psychotiques, ni pervers. Moi, j'ai rencontré effectivement des génocidaires rwandais, en tout cas des présumés génocidaires rwandais, puisqu'ils n'étaient pas encore jugés. J'ai rencontré des terroristes. J'ai très rarement vu des pathologies psychiatriques. Donc c'est une question évidemment essentielle. Et j'ai essayé de la poser. Vous savez que dans les échanges de lettres entre Anna Arendt et Karl Jaspers, cette question avait été abordée, puisque Anna Arendt écrit, juste après la guerre, Anna Arendt écrit à son maître Karl Jaspers, qui était à la fois philosophe et psychiatre, un grand psychiatre, « Ces crimes sont tellement épouvantables qu'ils échappent à la punition, à la punition humaine. Donc ces crimes sont tellement énormes qu'on ne peut pas leur attribuer des juges terrestres. » Et Jaspers lui répond « Attention, tu es en train de tomber dans la grandeur satanique, tu es en train de faire de ces actes des gestes en quelque sorte hors normes, alors qu'ils sont d'une grande banalité. » Alors, ce qui est historiquement intéressant, c'est de voir comment cette notion de banalité du mal va être invoquée à partir d'un certain nombre d'expériences. D'abord, on cite toujours Douglas Kelley. Douglas Kelley, c'était un psychiatre américain envoyé à Nuremberg durant les premiers temps du procès, puis qui surtout auparavant avait examiné les dignitaires nazis. Et puis, il avait dit, des hommes comme ça, on en trouve très communément en Amérique. Il y a ensuite l'expérience de Stanley Milgram, les fameuses expériences dites de soumission à l'autorité. En 1963, il y avait un étudiant, des élèves, un professeur, et tout ça a été évidemment fait par des acteurs, et donc on avait recruté pour quelques dollars des personnes qui devaient mettre des charges électriques de plus en plus puissantes en fonction des réponses des étudiants. Et c'était sidérant de voir qu'un certain nombre d'entre eux appuyaient sur des charges qui étaient des charges mortelles. Bon, enfin, je dis tout ça très vite, mais Stanley Milgram lui-même avait été stupéfait de ce poids de ce qu'on considérait à l'époque comme de l'obéissance. Et puis, il y a eu l'ouvrage de Christopher Browning, un historien américain, sur le 101e bataillon de réserve. Ce sont des hommes qui ont participé à la Shoah par balle et qui avaient le choix de ne pas le faire. Or, très peu ont refusé de le faire, et ceux qui ont refusé ne l'ont pas fait pour des raisons morales. Bon. Donc, tout ça a été en quelque sorte pris comme argument de renforcement de la thèse d'Anna Arendt, et c'est ce que très récemment Abraham de Swann appelait la doxa Kelley-Milgram-Browning. Évidemment, comme toujours dans l'histoire des idées, il y a eu des réactions inverses. Par exemple, en France, Isabelle Delplat a écrit un livre sur le mal en procès. David Cesarani a critiqué la représentation de criminels de bureau qui était celle d'Anna Arendt à propos d'Eichmann. Il a montré de façon tout à fait convaincante, évidemment, que c'était un antisémite convaincu, passionné, grand voyageur. Et récemment encore, Abraham de Swann a écrit un livre tout à fait intéressant qui s'appelle « Diviser pour tuer », où il se montre extrêmement sévère à l'égard d'Anna Arendt et même un peu moqueur à l'égard des Français pour lesquels elle a un tel prestige.
Bon. Juste pour rappeler Anna Arendt, c'est quand même à la suite du procès où elle était pour le compte du New Yorker pendant le procès de 61 à Jérusalem d'Adolf Eichmann. C'est à la suite de ce procès qu'elle prit conscience que la Shoah n'était pas l'œuvre d'un monstre, d'un animal, mais bien d'un homme ordinaire.
Alors c'est ça qui m'a intéressé. Anna Arendt a mis le doigt sur quelque chose que la clinique d'après-guerre, c'est-à-dire que au début des années 60, après le procès de Jérusalem, de ce que la clinique va décrire en termes de pensée opératoire, d'alexithymie, de carence élaborative, c'est-à-dire ces sujets dont la pensée est totalement mécanique, descriptive, dépourvue d'affect, ce n'est pas une pensée vivante. Et quand elle dit que c'est dans le vide de la pensée que surgit le mal, là, elle pointe quelque chose d'absolument essentiel. Vous savez, par exemple, quand on a commencé à s'intéresser aux délinquants sexuels, on les imaginait, à l'instar des pervers sexuels, comme ceux qu'on voit sur le divan, hein, comme des gens avec des scénarios pervers luxuriants, extrêmement riches, alors qu'en fait, on s'aperçoit que l'immense majorité des délinquants sexuels sont alexithymiques, c'est-à-dire que d'une pauvreté expressive tout à fait désarmante. On est effectivement dans le vide de la pensée. C'est évidemment la question que j'ai essayé de traiter dans ce livre. Alors dans ce livre, j'ai pas seulement parlé de terroristes ou de génocidaires. Je me suis interrogé sur les crimes passionnels. Pourquoi est-ce que la presse systématiquement va dire mais enfin c'était un voisin tout à fait charmant, on comprend pas qu'il ait tué sa femme et ensuite ses trois enfants. Donc je me suis intéressé aux crimes passionnels. Je me suis intéressé à ces mères qui tuent leur nouveau-né après un déni de grossesse, une petite secrétaire sans histoire, hein. Bon, c'est pas des malades, hein. Bon. Je me suis intéressé à ces garçons qui tuent pour ce que j'appelais les crimes de lèse-narcissisme, pour une cigarette refusée, pour une embrouille de casquette, voilà. Qu'est-ce qui fait que des gens au profil assez banal allaient se retrouver dans des crimes épouvantables. Alors, ma première étape, en quelque sorte, ça a été de dire, ben, il n'y a pas de personnalité qui conduise au crime passionnel. Alors, on retrouve un certain nombre de traits, de problématiques, évidemment, de façon assez prévalente, mais on ne peut pas parler de personnalité qui aboutisse au crime passionnel, on ne peut pas parler de personnalité néonaticide, etc. C'est même une absurdité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît plus important, c'est quels sont les processus transformatifs qui font que une personnalité banale va de fil en aiguille, d'étape en étape et de séquence en séquence, arriver au bord de la possibilité du passage à l'acte. Vous savez, on se pose toujours la question, qu'est-ce que j'aurais fait ? Eh bien, on ne peut pas répondre à cette question, bien sûr. Et si vous vous demandez aujourd'hui si vous seriez capable de découper à la machette votre voisin, ben vous dites non et vous avez raison. Mais essayez d'imaginer que vous êtes dans un climat collectif de peur, avec des incitations politiques. Essayez d'imaginer que le mal devienne un bien, qu'on vous indique cette direction-là et pas une autre. Essayez d'imaginer que vous ayez des légitimations, des alibis. Essayez d'imaginer que vous avez une peur terrible et qu'on vous désigne un groupe humain qui pourrait être à l'origine d'un génocide sur vous, sur vos enfants, sur votre famille, etc., etc. Donc, essayez d'imaginer toutes les transformations psychiques qui pourraient se faire en vous, et au bout de toutes ces étapes, ben, vous ne savez pas ce que vous feriez. Bon. Et effectivement, Le troisième élément qui me semble essentiel, c'est quelque chose autour du vide de la pensée. C'est-à-dire que la pensée s'évanouit. Le criminel passionnel, il ne pense plus au bout d'un certain temps. Et donc, il est extrêmement surpris quand le juge d'instruction lui dit « Vous avez donné 97 coups de couteau à la femme que vous dites avoir aimée. » Donc, ça lui paraît ahurissant. Et pourtant, il les a bien donnés, ces 97 coups de couteau, dans un moment d'évanescence totale. C'est un moment de débordement, un moment de passion humaine, pour dire les choses simplement, mais c'est un moment qu'on peut qualifier de semi-crépusculaire, de dissociatif, de tout ce qu'on veut. Mais chez la personne la plus normale, hein, bon, au départ.
Quelle est cette petite différence, cette singularité qui distingue ces hommes apparemment normaux avec nous, sujets aussi normaux ?
Alors, il y a beaucoup de réponses. Alors, justement, je ne pense pas qu'on puisse passer aussi directement de « seuls des monstres peuvent le faire » à « tout le monde peut le faire ». Donc, qu'est-ce qui fait la différence ? Ben, c'est une grande question. Ce à quoi, moi, j'aboutis, sont des choses assez banales, d'ailleurs. Hein. C'est, au fond, l'éloge de la pensée. Mais l'éloge de la pensée, c'est pas l'éloge de la culture. C'est pas l'éloge de l'intelligence. C'est-à-dire de ces sujets qui ont gardé, dans leur aptitude à penser, une ouverture à l'affect, à l'émotion, au débat interne, à l'articulation de l'éprouvé et du jugement, et à la capacité d'en débattre. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les génocidaires n'ont pas du tout de sentiment de culpabilité, c'est même une constante, parce qu'ils ont été ce que l'époque a voulu qu'ils soient, et il n'y avait aucun écart entre eux et l'époque. Et la culpabilité, malheureusement, c'est du côté des victimes qu'on la trouve, c'est terrible, mais c'est comme ça.
Mais alors l'intelligence du mal, ce serait donc un mythe ?
Alors, j'ai beaucoup aimé l'idée phrase d'un sociologue, les imbéciles de la barbarie sont plus nombreux que les génies du mal. Je suis évidemment complètement d'accord. Je n'ai pratiquement jamais examiné de génies du mal. Des imbéciles de la barbarie, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a tendance à amplifier le mal, pour des tas de raisons. Essayez d'imaginer, il faut que la personne qui a commis un grand malheur soit à la hauteur, si je puis dire. Mais l'idée que ce serait pour des toutes petites raisons, des tout petits mobiles absurdes, qu'on a supprimé la vie des êtres qui vous sont les plus chers, ou même la vôtre, qu'elle soit menacée c'est quelque chose d'insupportable, c'est quelque chose d'absolument intolérable. Et puis, le mal, ce ne sont pas des régions dans lesquelles nous avons l'habitude d'aller ou de soumettre notre intelligence. C'est-à-dire que vous ne passez pas votre temps à vous demander comment vous allez soumettre les autres. Bon. Et donc, nous attribuons toujours, souvent, une force, une puissance à ceux qui sont dans ce registre qu'en réalité, ils n'ont pas. Donc, l'intelligence du mal, c'est un mythe. C'est un mythe, c'est le mythe du diable, c'est le mythe diabolique. D'ailleurs, au procès d'Eichmann, l'avocat général l'a diabolisé. Je me rappelle qu'au procès de Guy Georges, l'avocat général avait dit « Guy Georges, vous êtes le diable ». Et je crois que malheureusement que c'est une erreur.
Il y a très peu de grands pervers qui échafaudent des scénarios. Vous parliez de Fourniret.
Là, si vous voulez, il faudrait rentrer dans le détail clinique. C'est-à-dire qu'il a toujours été fasciné par la virginité, et sa rentrée, si je puis dire, dans une théorie sexuelle et dans une interrogation, comment être né d'une mère impure, comment conserver cette pureté, ça s'articulait sur une théorie sexuelle infantile maintenue plus tard de manière assez folle, et Il aurait pu être délirant, puisqu'il avait fait une expérience délirante primaire à l'âge de 11 ou 12 ans, et puis il a orienté différemment son destin. Mais Fourniret n'a pas toujours été Fourniret. Fourniret a été au départ quelqu'un qui raccompagnait ses petites victimes, ou les expertises des années 80 sont pas du tout celles que nous avons faites. Donc Fourniret a eu le temps, en plusieurs décennies, de se forger une carapace perverse absolument inentamable. Donc lui, effectivement, avait des représentations autour de la virginité et autour du fait que ses victimes devaient être vierges et qu'une fois qu'elles ne l'étaient plus, elles étaient en quelque sorte bonnes à jeter au rebut. Enfin bon, ce sont des images épouvantables, mais c'était pour lui ce qui l'animait dans un objectif de pureté. Et je me souviens d'un moment de l'expertise tout à fait renversant, où il s'est mis à vociférer contre moi, qu'est-ce que c'est que cette époque qui ne peut plus comprendre l'importance de la virginité et de la pureté. C'est-à-dire que tout d'un coup, il était du côté du bon, du pur, et moi j'étais du côté de ceux qui ne le comprennent pas et qui sont plutôt du côté du sale et de l'impur.
Je voudrais revenir juste sur une chose. Quels sont les éléments que vous observez chez ces hommes que vous avez examinés, expertisés, qui passent à l'acte? Il y a un processus de déshumanisation dont vous parlez. Ils procèdent comment? Par étapes?
Certains, oui. Certains se déshumanisent progressivement. Il y a des processus d'habituation qui font que il devient plus facile de tuer. Alors je cite les travaux de Samuel Tanner, par exemple, qui montre l'importance de la machette. Au Rwanda, la machette, c'est un instrument de la vie quotidienne. Qu'en Serbie, comme on tue le cochon, il fallait que les gestes soient des gestes ordinaires, soient des gestes habituels. Il faut que celui qui tue de manière sérielle, de manière comme ça, le plus grand nombre de personnes possible, il faut que ce soit le plus confortable, faut qu'il y ait le moins de gêne. Donc il y a toute une série de facteurs qui vont rendre plus aisée la commission criminelle, qui font que on se débarrasse de ce qui était une entrave. Par exemple, il ne faut pas croiser le regard de la victime. Bon, un exemple entre mille.
En tant que psychiatre, à quoi êtes-vous confronté régulièrement, Daniel Zaguri, à la question « l'acte et la personne sont-ils en adéquation ?»
Alors, effectivement, c'était une critique assez juste de Michel Foucault par rapport à l'expertise psychiatrique, hein, c'est-à-dire s'il a tué, c'est qu'il était impulsif, s'il a violé, c'est qu'il était pervers, s'il a commis des actes de violence, c'est qu'il avait je ne sais quelle pulsion destructrice, etc., etc. C'est-à-dire une espèce d'adéquation miraculeuse entre l'acte et la personne. Il ajoutait « et voilà pourquoi votre fille est muette hein, ». Donc ces médecins de Molière qui viennent pérorer dans le prétoire. Ben ça, c'est un piège. C'est justement le piège qu'il faut éviter et le piège dans lequel nous tombons assez régulièrement. Alors, vous savez, très récemment, une avocate générale me disait, très dépitée, « mais alors, nous ne pouvons pas la condamner ». Pourquoi elle me disait ça? Effectivement, parce que, au fond, si on peut dire de l'expert psychiatre, il a embarrassé la cour, mais moi j'aime bien, parce que s'il a embarrassé la cour, c'est que justement, il a apporté une complexité embarrassante. J'ai essayé d'expliquer quelque chose à propos d'une jeune femme qui avait tué sa mère. Je disais, mais bon, le matricide est un acte absolument exceptionnel. Le matricide, par la fille, c'est le plus rare des quatre combinaisons possibles. Donc c'est, dans l'immense majorité des cas, la maladie mentale, et dans les autres cas, des circonstances absolument exceptionnel. Et donc, en l'occurrence, il y avait des circonstances exceptionnelles. Et on me disait, oui, mais elle n'est pas comme vous la décrivez. Elle avait fait des fugues, elle avait fait des... Elle était un petit peu menteuse. Quand bien même elle aurait fugué, quand bien même elle aurait été menteuse, quand bien même tout ce que vous voulez, c'est pas ça qui va rendre compte d'un acte exceptionnel dans toutes les cultures, qui est le fait de tuer sa mère, celle qui vous a mis au monde. Et donc, bon, je veux pas rentrer dans le détail de l'affaire, mais si vous voulez, j'ai senti un mouvement comme ça de un peu désemparé chez l'avocat général qui disait, mais au fond, mais qu'est-ce que je vais requérir? Vous nous dites que c'est les circonstances qui ont fait que... On voudrait que le criminel ressemble à son crime. On voudrait que... qu'il soit à la hauteur du malheur occasionné. Mais non, et c'est ça, si vous voulez, le scandale de la banalité du mal. C'est qu'Anna Arendt nous dit, mais non, c'est un pauvre type, c'est un clown. Vous en rendez même pas compte. C'est un idiot intellectuel. Enfin, c'est pas un idiot au sens des aptitudes au jugement. C'est un idiot au sens de l'inaptitude foncière à la pensée. Et en disant ça, elle met le doigt sur un certain nombre de choses que les psychiatres et les psychologues vont décrire au début des années 60.
C'est quoi votre mission, Daniel Zaguri ? C'est en traitant les gens humainement qu'on assure la sécurité du pays ?
Vous savez, vous posez une question, là aussi un petit peu, qui me désarçonne, mais ça se rejoint en effet. C'est-à-dire que on nous interpelle aujourd'hui d'une manière pressante en disant comment faire en sorte que les malades dangereux ne passent pas à l'acte. Alors la réponse sociétale naïve, c'est celle de l'enfermement, alors que par ailleurs, pour des raisons budgétaires, cet enfermement est absolument impossible. Enfin impossible, heureusement d'ailleurs. Et qu'au fond, la réponse la plus simple et la plus juste, c'est de dire que si la société ne veut pas que de tels actes qui ne devraient pas se produire se produisent, la réponse la plus simple, c'est qu'il y ait un dispositif de soins psychiatriques qui soit performant dans notre pays. Or, nous en tournons le dos et de manière de plus en plus évidente.
Si vous n'avez pas votre expertise chaque mois, ça vous met dans quel état ? Ça vous déprime ? Ça vous...
Alors, il y a, je commence à vieillir, hein, je commence à faiblir. Donc, si vous voulez, j'essaie d'avoir plus de plaisir et moins de contraintes. Bon, ce qui n'est évidemment pas simple. Il y a une addiction, c'est vrai qu'il y a une forme d'addiction. Il y a une espèce de défi renouvelé. Qui n'est intéressant, à vrai dire, que quand c'est des affaires stimulantes.
Ça vous agace d'être enfermé dans un carcan d'experts de tueurs en série ?
Ah ben, c'est absurde. C'est totalement absurde. C'est absurde et en même temps, je vais pas jouer les coquettes, si vous voulez. Les tueurs en série, j'ai dû en voir au maximum 12-15 dans ma vie. Hein, donc ça représente 0,0 quelque chose de ma pratique. Bon, ça a retenu l'attention des médias, c'est-à-dire qu'on m'a étiqueté expert des tueurs en série. Alors, voilà, pourquoi pas. Mais encore une fois, c'est une tellement petite part de ma vie que... Bon.
Est-ce qu'il y a un patient qui vous a beaucoup marqué, vous, en tant que psychiatre, Daniel Zaguri ?
Patient ? Ah, mais attendez, j'ai quand même 40 ans de psychiatrie dans ma musette. Des patients qui m'ont marqué, il y en a beaucoup, oui, bien beaucoup. Oui. C'est un patient de mon service qui s'automutilait de façon régulière, que tout le monde connaissait. On l'appelait Thierry, qui malheureusement est décédé, et qui avait pour moi une espèce d'adoration absolue que je n'ai pas rencontrée dans le reste de ma vie, parce que c'était impossible, c'était une adoration pathologique, mais également, ça alternait avec des mouvements C'était tantôt patron avec un regard illuminé, tantôt patron avec des gros mots que je vous laisse deviner à la suite. Donc c'était un patient qui était avait le physique de Frankenstein, hein, il était couturé de partout, mais il était extrêmement touchant. Et donc j'avais un lien particulier avec lui, au point que pour plaisanter, ça plaira pas beaucoup à mes enfants, mais enfin pour plaisanter, je disais dans le service, c'est mon fils adoptif. Bon voilà. Mais donc ce patient m'a beaucoup touché par l'énormité, par le, je dirais, les abîmes de besoin de d'affection et en même temps de haine qui alternait. Et voilà, c'est un patient qui, puis j'ai été affecté par sa mort. Voilà, vous me demandez, mais il y en a tellement d'autres. Vous savez, moi je suis psychiatre, je suis clinicien. Pourquoi le mal ? D'abord, pourquoi le mal ? C'est un magnifique article d'André Green, et il répond, le mal est sans pourquoi. Le mal est sans pourquoi. Le mal est pure déliaison. Hein. Le mal est pure destructivité. Ici, il n'y a pas de pourquoi. Hein. C'est ce qu'on a... réponse qu'un gardien a répondu à Primo Levi. Ici, il n'y a pas de pourquoi. Hein. Bon. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que pourquoi est une question métaphysique. On peut jamais dire pourquoi, mais on peut parfois dire comment. C'est-à-dire que quels sont les processus qui font que une personne, ordinaire ou pas d'ailleurs, va être amenée de fil en aiguille à commettre un acte hors norme.
Merci Daniel Zaguerri.
C'est moi qui vous remercie.
De cette rencontre de Johanna Bedeau avec Daniel Zaguerri. À voix nue, réalisation Angélique Thibault, prise de son Yann Fressy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.